Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer en immobilier et éventuellement rejoindre un réseau de mandataires? Ou est-ce que c'est tout simplement une folie? Alors c'est vrai qu'avec la crise actuelle du logement, on peut se poser la question. Eh bien ça va être le sujet de l'épisode 71 de Passion Immo. Bonjour à tous, c'est parti! Alors, on est bien obligé de reconnaître la crise actuelle du logement. On en parle tous les jours, c'est les particuliers qui s'en plaignent, il y a la crise concernant l'obtention de crédits immobiliers, les difficultés des vendeurs à ajuster un prix qui serait aujourd'hui un petit peu plus juste que ce qu'il n'était il y a encore un an ou deux, la crise dans le neuf, alors, qui est extrêmement sévère, celle-ci. Donc, évidemment, dans un contexte pareil, quelqu'un qui, en 2024, aurait le projet, ou en tout cas, mûrirait ce projet depuis longtemps, après tout, de rejoindre un réseau de mandataires, voire une agence immobilière, comme agent commercial, peut s'interroger. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre? Et la question, elle est tout à fait légitime. Alors, c'est vrai que la crise... Il ne s'agit pas de la relativiser, évidemment, mais elle n'est pas aussi uniforme qu'on l'imagine, tout simplement parce que si je prends le cas de la vente de la transaction dans l'ancien, les transactions dans l'ancien, évidemment, ne sont pas au niveau de celles que l'on avait encore en 2021 et 2022, puisqu'on a terminé la fin de l'année avec 900 000 transactions dans l'ancien sur l'ensemble du territoire, mais 900 000 transactions dans l'ancien sur l'ensemble du territoire, c'est encore un score très honorable. Donc là, quelqu'un qui voudrait devenir agent commercial en immobilier, après quel que soit qu'il travaille avec une agence individuelle ou bien avec un grand réseau national, ça ne change rien à la problématique. Donc lui, il pourrait très bien se dire, après tout, pourquoi pas, il y a encore des affaires à faire. Et est-ce qu'il y a encore des affaires à faire? Oui, c'est une évidence. Surtout qu'on voit aussi des signes de reprise, qui sont des signes de reprise évidentes. Il y a une baisse des prix, peut-être pas encore suffisante, mais qui fait que les acquéreurs vont retrouver un petit peu d'appétence à l'achat. On a également un autre point qui est à souligner, c'est que les banques, elles prêtent de nouveau. Attention, c'est pas encore la grande euphorie, restons zen sur ce constat, mais il y a un frémissement quand même. Or, les réseaux de mandataires, ils se sont installés dans le paysage de manière solide et, à mon sens, durable. Je prends qu'un chiffre. Le nombre de mandataires en immobilier, il était multiplié par 5 entre 2015 et 2022. Multiplié par 5. Alors, évidemment, ça correspond à une période où le marché de l'immobilier se dynamisait pour atteindre les records qu'on a enregistrés il y a 3 ans. Mais il n'empêche que ce modèle économique, la crise actuelle, elle ne va pas le remettre en cause. Peut-être qu'elle va l'atténuer dans son expansion. Mais en tout cas, dès qu'une reprise sera là, il est évident que les mandataires vont reprendre un peu de poil de la bête, si je peux me permettre l'expression, et que le modèle économique, il est évidemment durable et clairement installé. Donc, cet engouement pour la transaction, sous cette forme en tout cas, devrait se poursuivre malgré la crise, sans trop de problèmes, tout simplement parce que ce modèle économique, il correspond aussi à une attente. L'attente, c'est deux personnes qui veulent travailler avec une certaine forme de liberté, et puis certains aussi qui veulent faire de l'immobilier une activité secondaire en plus d'une autre activité. Alors évidemment, dans ces conditions-là, être mandataire a tout à fait sa pertinence. Alors pour parler de tout ça, vous le savez, j'aime bien inviter des personnes, des spécialistes, des experts. Alors, mon expert aujourd'hui, c'est Samuel Coe. Alors, Samuel Coe, c'est plus qu'un expert, puisqu'il est directeur général d'EXP France. EXP, c'est un réseau de mandataires dans un premier temps installé aux États-Unis, qui a essaimé à travers le monde entier. C'est un des premiers réseaux, si ce n'est le premier réseau mondial. Et assez curieusement, l'implantation en France, elle s'est faite beaucoup plus tardivement, puisqu'elle s'est faite seulement en 2020. Alors donc, j'ai trouvé particulièrement intéressant de savoir comment un directeur général d'un réseau, alors qui en France n'a pas la dimension encore de réseau beaucoup plus connu et installé depuis bien longtemps, mais avec une expansion réelle, des méthodes, vous allez l'entendre, des méthodes qui sont des méthodes assez intéressantes et surtout, à la fin de l'entretien, on va dire sur le dernier tiers de l'entretien, Samuel Coe va donner son point de vue sur aujourd'hui, en 2024, les qualités qu'il faut pour devenir mandataire en immobilier et puis éventuellement ce qui pourrait sembler dans certains cas rédhibitoire pour ne pas devenir mandataire en immobilier. Donc c'est intéressant d'avoir son point de vue et puis lui nous dira s'il y a encore une opportunité, une pertinence en 2024 à toquer à la porte des mandataires et de XP en particulier, parce qu'évidemment, lui, il va le voir sous son prisme, pour répondre à cette grande question que j'ai posée au début de cet épisode. Est-ce que c'est opportun en 2024 d'envisager de devenir mandataire en immobilier? De manière particulière, mais de manière plus générale, est-ce qu'il faut attendre ou est-ce que on peut foncer? Eh bien, on va écouter l'interview que j'ai eu le plaisir de mener avec Samuel Coe il y a seulement quelques semaines. Alors, on va peut-être parler du modèle XP, parce que je suis allé un peu fouiner quand même, parce que je connaissais deux noms, mais pas de manière suffisamment approfondie, je le dis en toute franchise, surtout que j'ai le sentiment qu'en fait, on est sur un réseau qui est un réseau qui est encore modeste par le nombre de personnes qu'il compose, hein, comparé évidemment aux grands... aux grands qui sont installés en France. Bon, le système EXP, c'est quoi son originalité par rapport à d'autres réseaux, tellement on a de réseaux de mandataires aujourd'hui?
Alors, je suis obligé, Eric, de vous reprendre sur réseau modeste, parce qu'on est le plus grand réseau au monde.
Oui,
on est la
je
plus grande
en France.
Agence intégrante. Non, j'entends, j'ai bien entendu. Oui. Je me sens obligé de le dire.
Allez-y.
Je me sens obligé de le dire parce que c'est une véritable importance, parce qu'effectivement, si le projet il avait été de faire un réseau de plus que les 180 existants en France, sincèrement, en tout cas, à titre personnel, je n'en cache que moi, mais je n'en aurais pas vu l'intérêt. Mmh. Là, au contraire, on a un réseau qui fonctionne. On a un réseau qui a trouvé son modèle économique, qui part à l'étranger et qui continue en agence intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire, agence intégrée? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis le président de XP France, mais XP France appartient à 100% à XP Realty. Je n'ai pas acheté de master franchise. Je le dis haut et fort, parce qu'on me pose souvent la question, notamment les gros producteurs qui nous rejoignent d'autres réseaux. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, on est vraiment un modèle intégré. C'est vrai, dans les 24 pays, on travaille tous pour la même société. Et j'ai mes fonctions opérationnelles en France. Pardon si je m'éloigne un petit peu de la réponse, mais mes fonctions opérationnelles sont là, mais j'ai mes ressources humaines. Sont partageurs entre l'Angleterre et les États-Unis. J'en fais une petite mois, et voilà, mes supports ne sont pas là. Ma finance est entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ça ne touche pas les conseillers. Ils sont payés en 2 heures à réception des fonds. Mais je ne les ai pas là. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais dû tout monter ici en France, ça serait bien différent et pas du tout la même taille de structure, pas du tout les mêmes charges opérationnelles et pas du tout la même vitesse et puissance de frappe. Je ne parle même pas des outils tech comme Prime et UXP World et Birbella que nous avons à disposition, ou l'HubSpot ticketing qu'on a mis en place pour gérer les demandes de tous les conseillers.
Alors, on va en parler. On va en parler après.
Ah, voilà, plein de choses.
Oui.
Alors, donc, pourquoi en France? Alors, on est à 500 conseillers presque. On ne peut pas l'annoncer, on n'y est pas encore, mais 483, où on se parle. C'est pas Evergreen, du coup, mais ce n'est pas grave. Probablement 500 quand ça sera diffusé en 3 ans. C'est la plus même croissance qu'un réseau est connu.
Oui, parce que j'ai lu que vous étiez 400 au mois de septembre, apparemment, hein, vous avez communiqué.
Septembre-octobre, oui,
hein, septembre-octobre, donc voilà.
Normalement, on communique sur la réalité parce que nous sommes plutôt Nasdaq, donc vaut mieux que nos chiffres soient bons. Donc, c'est évidemment surveillé. Donc oui, là, on ne devrait pas tarder à passer les 500. Donc c'est un réseau qui avance très vite, surtout sur un marché qui était plutôt en décroissance. Croissance, où la croissance s'est un petit peu arrêtée. Donc on avance plutôt bien. Qu'est-ce qu'on vient apporter? On vient apporter de la fraîcheur, peut-être ce côté international n'existait pas vraiment. Il y avait des réseaux qui sont européanisés, mais de là à dire réellement internationaux, peut-être moins, avec réellement une volonté d'être international, qui pour l'être, qui partageait. Là, on a notre version 2 de notre métaverse. Il est juste incroyable. Je viens de faire une réunion. Je quitte la réunion hebdomadaire que je fais tous les lundis avec mes conseillers. Cette deuxième version permet à nos avatars je parle en français, mon interlocuteur qui est anglais a le texte traduit devant lui. On va pouvoir donc aller écouter mes conseillers qui sont anglais, vont pouvoir aller écouter des conférences aux US, au Canada, au Chili, au Colombie, s'ils le souhaitent, et apprendre différentes choses dans différentes cultures, même si l'immobilier ne se fait pas pareil. Nous avons à apprendre de tous les autres. Ça, c'est peut-être notre poste. C'était mon postulat français, hein. Je pensais qu'ils avaient. Mais finalement, si, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apporter. Donc, c'est une vraie richesse à la fois culturelle, économique, et puis une société cotée au Nasdaq, une société qui aujourd'hui fait un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, une société qui n'a pas d'endettement. Et je crois que, même si je ne sais pas si les gens y sont sensibles, mais ils devraient, parce que c'est vraiment important. Nous sommes dans un marché qui est plus en hausse de 15-20% par an. Ou de 10, en tout cas pour la croissance du nombre de conseillers, il va être essentiel d'avoir des sociétés qui ont une certaine pérennité pour ne pas se retrouver rachetées, pour ne pas modifier son modèle, pour ne pas avoir des offres qui vont donner lieu à une réalité derrière. Voilà, les contrats se modifient et si on ne signe pas l'avenant, eh bien on a le droit de quitter le réseau. Mais on est sur quelque chose d'établi qui permet, encore une fois, par nos choix stratégiques depuis 2009, de redistribuer énormément des 100% qui sont encaissés chez le notaire à nos conseillers. Et là, je crois que jusqu'à preuve du contraire, rapport prix-prestation, moi, en tout cas, je n'ai pas vu mieux que XP.
D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes à peu près 500. On reviendra sur les outils parce que justement, ça m'intéresse pas mal. Cette croissance, elle est un petit peu étonnante parce que moi, j'ai eu quelques chiffres d'autres réseaux de mandataires qui n'ont pas la même croissance. C'est le moins qu'on puisse dire depuis ces derniers mois. C'est qu'au contraire, il y a un certain nombre de collaborateurs qui les quitteraient. Parce que ils gagnent pas assez bien leur vie pour se parler très franchement. Vous, quelle vision vous avez par rapport à ça? Vous êtes tombé sur des super collaborateurs, vous avez trouvé une sorte de miracle immobilier qui serait un petit peu à contre-courant de ce qui se passe ailleurs?
Non, mais parfois ils les quittent pour nous rejoindre aussi, sur des vases
D'accord.
communicantes. On les accueille avec plaisir, en tout cas ceux qui produisent. Nous, cette année, en 2024, on a aussi une nouveauté qui est d'avoir fait un parcours réellement pour les reconversions, qui vont être moins nombreuses. Une fatalité, il y a moins de gens qui auront l'appétence à l'immobilier, parce que l'immobilier est moins bien vu dans les médias, c'est pas
Tout à
plus bête que
fait,
ça,
ouais.
puis il est plus compliqué, donc, un sens. Néanmoins, on continue à avoir pas mal de demandes de reconversion. On a déjà, et c'est un vrai bonheur, j'ai déjà des reconversions plus que réussies, c'est-à-dire des agents qui sont à 100%, donc plus de 80 000 euros par année de chiffre d'affaires, et qui n'étaient pas dans l'immobilier. Pour commencer, je suis. C'est un vrai bonheur de pouvoir partager ça. Donc, simplement, je pense qu'il y a de la place encore pour faire de l'immobilier en France largement. Il y a juste une concentration. Et puis, il y a juste parfois des promesses qui, encore une fois, ne peuvent pas être tenues. Pas qu'elles ne sont pas tenues, c'est qu'elles ne peuvent pas être tenues. C'est qu'à un moment donné, peut-être que certains ont aussi construit ou développé sur des moments où il y avait une forte croissance et il faut gérer aujourd'hui la stagnation, voire la décroissance. Il y a eu aussi, il y a des politiques parfois, et moi je m'y suis refusé, de package gratuit, et il ne donne pas lieu à de la pérennité. Donc voilà, donc ceci expliquant cela, je pense qu'on a un marché qui est à peu près stable, nous ne sommes pas en décroissance, au contraire. Il ne faut pas oublier que les mandataires, alors c'est 46 000, 48 000 conseillers en France, mais sur les 120 000 transactionnaires, il y a encore 72 000 conseillers qui ne sont pas mandataires.
Tout à fait, ouais.
Et chaque jour, il y en a qui passent de l'un à l'autre. Alors, j'ai toujours pas compris ce que voulait dire mandataire, mais celle-là, je l'ai faite plusieurs fois, donc je ne vais pas la refaire. Mais il y a des conseillers qui sont agents courts en agence et qui se posent beaucoup de questions. Il y a des agences complètes et nous avons ouvert notre modèle pour accepter les agences en entier. On a une modélisation spéciale pour eux. Ça s'appelait beaucoup. Ils gardent leur branding. Ils restent l'agence Samuel Co. Immobilier, powered by une expert en petit. Mais ils ont tous les outils. Ils n'ont plus des choix non pertinents à faire de choisir si je conserve ce loger ou le bon coin. Et parce que ce loger en gros particulier, non, on a besoin de ce loger. 40% de leads uniques. Je ne devrais pas le dire, mais. Enfin, pour se loger, mais voilà, il y a un moment donné, c'est sacrifier ses conseillers si on n'a pas de se loger. On va le dire comment? Mais 4 acheteurs sur 10 qui ne regardent que chez se loger. C'est pas démontré. Donc il y a des choses, voilà, je pense que le marché est en train encore de changer et que des réseaux comme le nôtre, probablement pas le seul, loin de là, j'ai des confrères qui font très bien leur job, mais ont une réelle place encore à faire et nous avons un réel potentiel de croissance pour apporter du service. Je suis une plateforme de service, je fais du B2B, mes conseillers sont mes clients. Donc je dois leur apporter le meilleur service au meilleur moment. La PropTech française est infiniment riche, il y a des nouveaux outils tous les jours, mais ça c'est notre job de les benchmarker, de sélectionner le bon, de faire un contrat cap. Si vous voulez le faire en agence, il y a un moment où c'est. Je ne sais pas à quel moment vous pouvez travailler, produire, développer, former, coacher, faire. À mon, je l'ai fait hein, longtemps, hein, mais c'est devenu, je pense, le métier a changé, c'est devenu trop compliqué.
Alors, moi j'ai une question qui est pas provocatrice parce que c'est pas mon style, mais on a l'impression quand même que je vais vous citer une anecdote. Il y a 2 ans, j'assistais à un webinaire. J'étais invité donc par un grand réseau. Alors que pour le coup, je citerai pas. Donc il y avait une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui participaient, qui en fait étaient candidats hein, à rentrer dans ce réseau. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, on prenait un petit peu tout le monde sans grande sélection. Et moi, je me suis demandé si c'était toujours très sain de prendre toute personne qui souhaitait éventuellement rejoindre un réseau. Parce qu'il y a des bons, puis il n'y a pas que des gens bons. Voilà, moi, je le dis en toute franchise par rapport à ça. Vous, comment vous procédez sur ce plan? Vous prenez tout le monde ou vous sélectionnez un petit peu les personnes qui vous sollicitent?
Elle n'est pas piège, mais vous adressez. J'ai l'habitude de toujours dire la vérité. Plusieurs phases. Et ça tombe bien parce qu'on est dans une nouvelle phase et je l'apprécie. Il y a une. Je suis parti de scratch. EXP, il y a 3 ans et demi, personne. Très peu de gens. C'est-à-dire personne. Mais la population immobilière française savait même que ça existait.
Oui,
Pourtant, c'est déjà une grosse société.
en France, en tout cas.
Connaissait en France cette belle société américaine.
Ouais.
On a le droit de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, on a le droit de savoir ce qui se passe ailleurs, même si ce n'est pas en France. Mais ce n'était pas le cas. Donc, on est parti de zéro. Moi, j'ai coopté les premiers, les deuxièmes, des gens qui sont toujours là, qui sont très bien. Mais voilà, vraiment, on est parti de zéro. Il y a un moment où les portes étaient grandes ouvertes. Donc, je ne m'en cache pas. Et on a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis. On a des gens qui n'ont pas du tout compris pourquoi ils venaient, nous non plus. Donc, on a eu cette période où, un, on a fait le ménage et on le fait régulièrement. Ça, c'est je m'y tiens. Deux, on est passé depuis 2024, on a mis 2 outils en place complémentaires en 2023, tout début 2024. En 2023, on a mis en place les équipes, les teams, avec des team leaders qui ont une rémunération pour être team leader. Et en 2024, on a mis en place le mentoring programme. Et là, j'en suis ravi, parce qu'on l'a mis en place début février, on est qu'en mars, et on a déjà 30 mentors certifiés, on a une dizaine de mentorés qui viennent de faire des couples avec des mentors, donc ça y est, c'est parti. Et on a associé ça aussi par le fait que ne rentrait plus personne, qui n'avait pas une expérience, donc il y a un questionnaire, mais oral, hein, il y a un rendez-vous, un entretien systématique, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'Éric me disait, Michel, il est bien, je
On prenait
coach,
Michel, quoi.
c'était envoyé par Eric pour le Michel.
Ouais.
Clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même
D'accord.
si Eric est mon top leader et qu'il me dit Michel est bien, Michel a un entretien avec le staff de XP, un certain nombre de questions, un certain nombre de points qui nous permettent de recouper si Michel est adéquat. Il était très bien, Michel. est-ce qu'il convient à UXP, est-ce que UXP lui convient? La vraie question. Mmh. Et si c'est le cas, et qu'il est expérimenté, zéro débat. S'il n'est pas expérimenté, on a un programme qui s'appelle Rookie. J'avais enlevé tous les mots américains, mais au bout de 3 ans et demi, je suis contaminé, donc j'en ramène plein.
Rookie, c'est ça va. Oui, tout le monde comprend.
J'avais enlevé tous les mots américains. Je savais, je suis un Gaulois et je savais qu'il fallait qu'elle soit gauloise, cette société. Puis finalement, il y en a plein, team leader, c'est plus sympa que chef d'équipe, honnêtement. Donc, voilà, et rookie, c'est plus sympa que débutant. Donc, il y en a quelques-uns qui sont plus sympas, donc on les remet, on assume notre double appartenance. Et les rookies vont soit rentrer dans une team, soit être mentorés, mais pas tout seul. Mmh. Sinon, ils ne rentrent pas. Et même dans leur période d'essai, je ne délivrerai pas leur attestation s'ils n'ont pas voulu choisir. Donc, on peut les rentrer pour qu'ils regardent, etc., à l'intérieur. Mais on n'ira pas plus loin ensemble s'ils ne choisissent pas l'un ou l'autre parce que c'est pas viable.
Alors, d'accord.
Pour nous, moi, j'ai une contribution mensuelle qui comprend tout, hein, la formation, les lois, la publication limitée sur tous les principaux portails, sur l'objet de Boncoin, on formule un maximum partout. Tout ça pour 50 euros hors taxe. Moi, onboarder quelqu'un me coûte plus cher. Je ne gagne pas d'argent là-dessus, j'en perds, je suis clair. Mmh, donc, en plus, on fait du service. En plus, la personne qui est pas dans le jeu, finalement, c'est plus longue à suivre. Elle ne répond pas parce qu'elle n'est pas là. Voilà, les conseillers que j'ai en réunion tous les lundis, c'est billard, facile. Mmh. Ils sont là, ils sont présents, ils sont dans les chats, ils correspondent. Et voilà, donc, mais ceux qui ne sont pas à leur place, finalement, deviennent les plus coûteux pour la structure. Mmh. Et là, mon rôle, il est plus d'être un agent immobilier, mais j'ai un côté gestionnaire aussi, et c'était une mauvaise gestion. Donc, on ne fait pas la course aux chiffres, sinon on aurait bien plus de conseils avancés. On aurait pu faire comme certains, simplement de tant que je n'ai pas reçu de recommandé, ben non, c'est nous qui l'ont envoyé en recommandé, en disant voilà, ça ne fonctionne pas, et il est mieux de. Et on le fait.
D'accord.
Et je crois que c'est assez rare dans la profession pour être souligné.
Bon, ben, en tout cas, merci pour la transparence sur l'évolution.
Ça fait partie de mes défauts.
Ouais, là, c'est pas. Oh là, c'est.
Ouais, bon, ça.
C'est
ça
pas un défaut. C'est pas un défaut. Ouais.
C'est parce que j'ai pas assez de mémoire. Je suis obligé d'avoir qu'une seule version. J'ai pas assez de mémoire pour pratiquer.
D'accord. Alors, justement, on va rester sur le terrain de la transparence. Moi-même, je fais de la formation auprès d'agences immobilières, mais d'agences immobilières, on va dire, traditionnelles. J'entends très souvent, et je ne suis pas nécessairement d'accord, oui, mais les réseaux de mandataires, c'est des gens qui sont pas très bien formés, ils font n'importe quoi sur le terrain, etc. Moi, je pars du principe qu'il y a des réseaux de mandataires qui font plutôt très bien les choses en matière de formation, et d'autres, bon, qui font pas trop leur boulot. Mais comme les agences traditionnelles, hein, cela dit, il n'y a pas que des bonnes agences traditionnelles non plus. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez un parcours de formation, et comment vous prenez les choses en main à ce niveau-là? Parce que pour moi, j'avoue que c'est quelque chose d'assez fondamental quand même. Expliquez-nous.
Alors, on a un outil assez extraordinaire, nous, qui est notre métaverse, parce que une des difficultés, effectivement, des réseaux de mandataires, et ce qui a changé par rapport aux agences immobilières que j'ai bien connu ces deux mondes, c'est qu'une agence, vous êtes en local, vous pouvez organiser les choses différemment. Bon, je suis pas là et je le ferai pas pour entretenir la guéguerre agence-réseau. Encore une fois, nous, on intègre les agences. Donc, autant vous dire que tout va bien. Néanmoins, oui, on trouve des mauvais partout. Et j'ai envie de dire, dans toutes les professions, où ils feront 3 docteurs, mes 3 amis, voilà. Bon, y compris dans ceux qui ont des diplômes Bac plus 7, 8. Ceci étant dit, on a mis en place, nous, alors on s'est cherché là-dessus, ça a été aussi le travail de ces 3 dernières années, et on est loin d'être arrivé, mais on a mis en place tout un parcours de formation. On a une plateforme de e-learning qui est propriétaire à l'UXP, et qu'on met un certain nombre de choses, et nous sommes en train de totalement refaire le parcours, l'expérience utilisateur pour 2024, mais on en avait déjà une première, avec une première phase, une deuxième phase, une troisième phase, classique, hein, vous suivez, vous avez un QCM, vous passez au suivant, vous avez une médaille, hop. Là, on a ajouté une deuxième plateforme de e-learning avec un de nos partenaires fournisseurs qui est Modelo, cité du groupe Septéo. Et avec Modelo, on a mis l'Académie Modelo disponible et gratuite pour tous nos conseillers qui disposent donc pas mal de formations juridiques, formations généralistes et surtout des attestations de loi Allure. pas nous-mêmes centre de formation. Donc là, mes conseillers peuvent avoir toutes leurs heures allure gratuitement. Pas un euro. C'est pas neutre. Ce qu'on a rajouté, c'est la méta-intégration qu'on fait maintenant, lundi matin au vendredi après-midi, pour tous les nouveaux qui nous rejoignent. Donc, on leur propose des sessions. Elle n'est pas obligatoire. Chaîne de recours. Dedans, j'ai un organisme extérieur qui intervient et ça leur fait bénéficier de 14 heures à l'heure. Là, c'est purement métier. Les autres heures étant concentrées sur la découverte du staff, donc tout mon staff opérationnel passe, y compris moi, dans cette semaine. On apprend à se connaître, que ça va tellement plus vite quand vous savez à qui vous devez demander quoi. Donc, on a plein de documents qui le disent, mais quand on est venu le dire en personne. Donc, ça, on a constaté ça. Et puis aussi les outils. Utiliser Modelo, utiliser Apimo, voilà, qui sont nos outils. À qui je dois demander quoi, les boosts sociologiques. Bref, je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais les outils. Dans l'idée qu'à la fois, ils aient la partie immobilière et la partie entreprise pour être le plus opérationnel au bout d'une semaine. On le sait, vous et moi, surtout si vous êtes formateur, on pourrait les enfermer 6 mois ou 1 an dans une salle. Ils ne sauraient pas tôt. Il faut aller sur le terrain.
Bien d'accord.
Ça fait 25 ans et au bout de 25 ans, j'en découvre tous les jours. Donc, pas tous les jours, régulièrement. Donc, ayons cette humilité de penser qu'on ne peut pas tout donner en formation sur un starting.
Tout à fait.
Par contre, il faut donner un start, il faut donner une première, voilà, et essayer d'être le plus efficace en productivité pour que les gens sachent au moins où demander. Ils voient une autre juriste, ils voient, etc. Donc, ils savent qui fait quoi et comment ça fonctionne. Et en plus, on le fait dans notre outil, qui est extraordinaire, qui est le Metaverse. Et là, c'est un outil propriétaire, il appartient au groupe, il vient d'évoluer. Bon, il ne faut pas que je commence à parler de ça, sinon je suis dithyrambique, mais vraiment, là aussi, même les formateurs professionnels, et vous êtes bienvenus pour venir voir, sont bluffés de la qualité. En plus, on est dans l'audio. Vous savez qu'on doit avoir 2 oreilles et une bouche. Donc, voilà. Le fait même... hier, les avatars bougent la bouche quand vous ouvrez votre webcam. Donc, il y a des évolutions sans arrêt. Mais oui, bougent les bras quand vous bougez les bras. Il suffit qu'il y ait du webcam. Ça n'existait pas avant-hier. Hein. Ça existe depuis hier. Donc, il y a plein d'évolutions qui se passent. On est très, très proche de la réalité, mais avec l'avantage de pouvoir mettre des gens de Besançon en même temps que des gens de Biarritz, en même temps que des gens de Nice, dans la même pièce. Ce qui a aussi créé du business, du coup, parce que les gens, voilà. Et assez surprenant de voir les retours qu'on a sur cette méta-intégration de gens qui ne voulaient pas la faire, qui vont reculant, notamment quand il y a des agences complètes qui nous rejoignent. J'ai eu le retour pas plus tard que ce matin. On a dû assister auprès d'une conseillère très expérimentée. Et ce matin, elle est venue me dire que vraiment, heureusement que j'avais insisté parce qu'elle a passé une top semaine, quoi. Elle en a retiré aussi bien sur son job qu'elle fait depuis 15 ans que sur d'autres choses plus subjectives, j'ai envie de dire. Mais voilà, qu'elle a vraiment retiré, qu'elle n'a pas perdu son temps, alors que vraiment, il a fallu... Alors, encore une fois, c'est parce qu'elle faisait partie d'une équipe, sinon les gens sont libres. Mais je recommande ce moment qui est un moment important de la cohésion d'entreprise. Et aussi en termes d'appréhension des outils, d'appréhension du staff et de productivité.
Alors,
et ensuite, on a des parcours experts qui arrivent encore, qu'on est en train de lancer, de mettre au point avec un organisme extérieur, où là, il y aura des propositions de prix, bien entendu, très séduisants, mais où les conseillers pourront utiliser son PCO pour des parcours très experts. On n'a pas l'habilité de devenir un centre de formation. Je crois qu'il faut qu'on sache qu'on est. On est une plateforme de service pour conseiller la formation. Est un des piliers indispensables. Mais non, ça ne peut pas être. On n'est pas un centre de formation. Je veux juste la nuance là. Donc, on fait appel à des formateurs compétents, à des formateurs externes, pour pouvoir proposer des services à nos conseillers. Ils prennent pas. Il y a une partie qui a un tronc commun qui est totalement gratuit. Ce qui est expert sera à leur désir. Et puis, plein se forment en dehors. On a aussi des très bons formateurs qui nous ont rejoints. Donc, on en a, y compris en interne, que ce soit. À l'étranger ou en France, aujourd'hui, on a des gens de très bonne qualité chez nous.
Très bien. Alors, moi, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai lu aussi, sur lequel vous êtes revenu assez souvent. EXP, c'est 0 mètre carré. Donc, qu'un slogan qui est assez parlant, est-ce que c'est pas aussi à contre-courant, en définitive, d'une demande du public? Parce que le confinement a montré une chose, c'est-à-dire qu'il y avait une forte appétence à la dématérialisation, à utiliser des outils sur Internet, etc., de la part de la clientèle, que ce soit les vendeurs et les acquéreurs, mais en même temps, on a bien senti, il y a des études aussi qui le montrent, qui reste quand même attaché à une présence physique, etc. Alors, 0 mètre carré, est-ce que c'est pas finalement ne pas répondre à cette attente quand même assez forte du grand public?
Alors, vous me tendez le bâton pour je ne sais pas ce que je vais en faire dire ce bâton. Assez simplement, il y a 180 réseaux de mandataires en France. 470 au moment où on se parle, parce que je ne suis
Ouais,
pas
à
sûr
peu
qu'on
près.
continue à en créer, ça doit dire, ça doit. À part quelques petites exceptions locales de réseaux de 10-15 personnes, on va partir du top 20 au top 30. Il y a 0 mètre carré à disposition du public.
On est
Ils n'ont pas
d'accord.
le droit. Il n'y a qu'une carte T qui permet de recevoir du public, loi au guet. Donc, ils ne reçoivent pas du public. Donc, pour répondre à votre question sur le public, pas de débat, on est comme. La grande différence, et j'adore cela, c'est que nous, nos conseillers ne payent pas de baby-foot. Ils ne payent pas de grandes tours, ils ne payent pas de grands bureaux, ils ne payent pas de bureau en merisier qui remplace un autre bureau. Je suis un tout petit peu caricatural dans ce que je dis. Et vos auditeurs m'en excusent. Mais c'est une réalité. Il y a un coût de structure de l'immobilier qui coûte une fortune. Même pas le coût d'achat ou de location, le coût d'entretien, le coût d'aménagement, le coût d'improductif en staff. Donc ça coûte une fortune. Nos conseillers sont des conseillers à domicile, sont des conseillers digitaux, purement digitaux, pour tous les mandataires, les 48 000. Donc ça ne change pas. Ils sont 90% sur le terrain. Et il y a 20 ans, la piste s'est lancée, on aurait pu en parler. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est transparent pour le grand public. Alors oui, probablement des clients qui veulent l'agence qui est en face de l'église au centre du village. OK, et si au moins l'agence, et ça tombe bien, il y en a même qui seront pour un bail X. Mais soit, il en faut pour tout le monde et je n'ai pas de débat là-dessus. Néanmoins, on sait aujourd'hui, on voit les parts de marché, on voit l'évolution, que ça fonctionne très bien avec les conseillers digitaux. Pourquoi ces conseillers digitaux devraient payer un siège social qu'ils n'utilisent pas? Et ça, c'est la vraie question que s'est posée mon président en 2009. Je ne suis pas sûrement malin pour me l'être posé moi, mais lui, il se l'est posé. Et c'est la solution qu'il a trouvée. C'est un outil dont il est bourreau. Il a acheté la boîte. Et cette boîte, Virbella, est dans notre cotation. Nos conseillers sont tous actionnaires. Bref, notre métaverse, nos bureaux appartiennent à nos conseillers. Si on fait la démarche intellectuelle, c'est comme si on avait fait une SCI sur une tour à la Défense et que finalement, ils avaient tous des parts. Donc, plus tout cet angle-là, finalement, je crois qu'on vient bien mieux répondre. Et encore une fois, la redistribution que nous faisons à travers notre partage des revenus et la rémunération sur la production, plus l'actionnariat pour nos conseillers, ne serait pas possible si nous avions des sièges sociaux. Si j'avais pris un siège de 500 mètres carrés, ça ne serait pas possible. Et puis, je vais vous donner autre chose que j'ai découvert à travers le temps et en grandissant dans mon staff, c'est que j'ai un vrai bonheur. C'est déjà pas facile de recruter, on le sait tout. Alors, je ne parle pas de recruter des conseillers, je parle du staff. Professionnel. C'est pas facile en France. On n'est pas en plein emploi, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que ça sera si nous arrivons en plein emploi? C'est pas évident. Et moi, j'ai la chance de pouvoir recruter en France entière. Je suis pas bloqué par un lieu. Je suis pas bloqué par une zone de chalandise de 15 km avec des coûts, etc. Après, j'ai l'inconvénient, c'est du full télétravail. Et c'est pas tout le monde, mais pas n'a pas la capacité ou la volonté de travailler en full télétravail. Et c'est pas forcément toujours évident. Ça fait 3 ans et demi que je le fais, alors je me déplace. Voilà. Mais je passe une grande partie de mon existence dans la même pièce, en train de faire ce qu'on est en train de faire. Hein. Sur ça, sur un autre outil, voilà, on change d'outil, mais on ne change pas les règles. Donc, c'est quand même beaucoup plus d'avantages, et il y a en tout cas pour le conseiller, un siège social avec des visites d'entreprise, etc., qu'il n'utilise pas, c'est juste un coût. Donc, de la rémunération moins pour lui, ou des outils ou du service. Et ça, nous, il ne l'a pas, mais au contraire, il a un outil qu'il peut utiliser. Nous, nos conseillers peuvent en appliquer depuis leur téléphone mobile ou leur ordinateur sur un gros siège.
Très bien.
Ça, c'est assez magique.
Alors, j'entends depuis quelques mois un certain nombre de personnes qui éventuellement étaient intéressées par devenir mandataire, en tout cas pour mettre un pied solide dans la profession immobilière, dire, oh là, c'est pas le moment. on va plutôt attendre, parce que si on y va maintenant, ben on risque de se casser la gueule pour dire, voilà, parce que c'est quand même un discours que j'entends pas mal. Vous leur dites quoi, en fait, à ces personnes? Oui, il faut peut-être mieux attendre un petit peu, ou alors non, allez-y, foncez. Comment vous réagissez?
Je vous invite déjà à leur donner mes coordonnées.
D'accord.
Non, plus sérieusement, je crois que là, c'est vraiment aussi... Je crois que les situations sont trop complexes et l'être humain est trop complexe pour arriver à faire des généralités. Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Il y a un bon ou mauvais moment pour soi, individuellement. Donc, quel est le contexte, quel est l'environnement, quelle est ma trésorerie, qu'est-ce que j'attends, quelle est mon appétence. Il y a des gens qui réussiront en 2024 en partant de zéro, et il y a des gens qui ont très bien marché pendant 3 ans et qui arrêteront en 2024 parce que c'est compliqué. Je pense qu'en tout cas, en commençant en 2024, c'est moins pire que 2023. Déjà, je crois qu'on bat. Je crois qu'on a touché le fond et qu'on est en train de revenir vers la surface. Donc, je pense que ce n'est pas du tout un mauvais moment. Je pense que ce n'est pas du tout un mauvais moment pour se mettre en place. Je crois qu'il vaut mieux commencer dans le dur. Et ça, ma carrière professionnelle m'a quand même permis de le vérifier à plusieurs reprises, que dans le facile. Parce qu'au contraire, aujourd'hui, on a beaucoup de cas, alors pas chez nous, mais il y a beaucoup de cas chez mes confrères, de gens. C'est vrai que quand vous arrivez, vous prenez un mandat, vous prenez un peu à n'importe quel prix, il y a 2 offres, vendez, vous faites une com, c'est un job facile. Alors, je ne vais pas là non plus trop le caricaturer, ça n'a jamais été comme ça, mais quand c'est un peu plus comme ça, c'est un peu plus compliqué quand ça se durcit. Si vous arrivez dans le dur, il y aurait du facile, un métier cyclique, et là j'en ai vu suffisamment d'échecs que je crois qu'ils se raccourcissent, qui plus est, donc on risque d'en revoir quelques-uns. Si vous arrivez dans le dur, vous allez être le roi du pétrole. Et vous passez ce cap. Et vaut mieux se confronter à cela tout de suite que se confronter dans 3 ou 4 ans, quand ça se représentera sans avoir connu. Donc, je crois que tous les moments sont bons, encore une fois, à mettre en adéquation avec la personne en face, sa situation. C'est sûr que ce n'est pas au moment où il a zéro, qu'il n'a aucune possibilité, qu'il faut gagner de l'argent la semaine prochaine. J'ai quelqu'un, alors c'est plus moi qui fais les premiers coups de fil, normalement, c'est mon équipe intégration, mais évidemment, il faut lui conseiller de trouver plutôt une place en intérim et de réfléchir à cela dans un second temps, quoi. Il faut avoir un peu de trésorerie pour aborder ce métier, mais je ne suis pas sûr qu'il en faille plus qu'avant. Il faut avoir envie, par contre, il faut être passionné et il faut travailler. Ça ne se passe pas sans travail, ça c'est certitude.
Cela dit, sur le fait de rentrer dans le métier quand la période est un peu plus difficile, c'est exactement ce que disait mon ami Jean-François Buet, qui était ancien président de la FNAM, donc qui n'était pas du tout dans le monde des mandataires, hein, en effet. Il disait exactement la même chose. Et lui, bon, bah voilà, qui est plus âgé que vous, il avait ce recul des différentes crises qu'il avait pu traverser, et il disait toujours, bah, il vaut mieux entrer quand les temps sont.
Mais ça se vérifie. Mais ça se vérifie en dehors de l'IMO, du reste.
Ah, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui.
Moi, j'ai vu des très belles périodes, mais c'est vrai que les conseillers, bah, je vais me tromper d'année, mais je crois pas, mais les conseillers qui rentraient en 2006, c'était n'importe quoi. Preniez un mandat, le soir, vous aviez 3-4 offres. C'est à choisir la personne qui vous a une offre. Mais c'est vrai qu'un conseiller qui rentre à ce moment-là, s'il a un peu de réseau, qu'il a moyen de prendre 3-4 mandats, il va faire 3-4 affaires le premier mois. Vous le remettez un an et demi plus tard en pleine crise des subprimes, c'est autre chose. Il ne peut pas te dire. Il est rentré, il faisait 2-3 affaires par mois en passant 3 coups de fil. Caricature, enfin, c'est du réel. Là. Et un an et demi après, il n'y a plus un coup de fil, y compris si vous avez les meilleurs mandats du monde. Donc, voilà, je pense que vaut mieux rentrer en pleine crise des subprimes, se construire, mettre en place les outils, les bonnes stratégies, la prospection. On ne va pas refaire tous les fondamentaux, mais mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place, parce qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses. Et là, quand le marché repart, et les marchés repartent ultra résilients, il y a besoin d'IMO estimé, alors ça dépend selon qui, je ne suis pas le meilleur des experts, mais il y a besoin d'immobilier de confort à 750 000, 800 000 bandes, quoi qu'il en soit. Donc,
c'est ça.
Pas de confort, de nécessité, pardon.
Le reste, ça reste
du confort. Donc, voilà. Donc, ça va se passer, quoi. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai connu à bien moins de 800 000 pentes et on était très, très bien. Ouais, etc. Mais encore une fois, je pense que pour ceux qui font correctement leur travail en conscience sur du moyen terme, pas sur du court terme, sur du moyen terme, il n'y a pas de débat. C'est un métier qui fonctionne. Si vous le faites correctement, c'est un métier qui marche. Il y a toujours des besoins. C'est un besoin primaire de notre pyramide de Maslow. Mais c'en est un en France, réellement. Et voilà, je crois que oui, je crois que c'est encore temps de se lancer.
Bien. Alors, une question assez précise par rapport à ça. Pour vous, un mandataire, c'est quelqu'un qui vient et qui va s'exprimer et travailler à temps plein, ou c'est quelqu'un qui éventuellement peut faire ça en complémentarité d'une autre activité? On me pose souvent la question.
Alors, déjà, je sais pas ce que c'est qu'un mandat. Des agents
Oui.
co, moi, en 2002, j'en ai dans mes agences. Bon,
C'est parce que le terme
ceci.
est parlant pour tout le monde. Voilà, c'est mais je
Voilà, on est d'accord. Dans le
oui.
langage commun, c'est plus simple.
C'est ça, voilà.
Je vais essayer de vous répondre avec une anecdote. Il y a quasiment au début de mon activité chez Expert, en 2021, j'ai rencontré un certain nombre de gens, et vu que la France ouvrait, j'ai un certain nombre de conseillers via nos systèmes internes américains qui ont pris contact. Comment ça fonctionnait en France? Et donc, j'ai fait un certain nombre de Zooms ou autres. Et je me rappelle d'une dame avec qui j'avais un Zoom, de 21h peut-être ici, peu importe. Et on échange, etc. Elle était chez UXP Realty, donc aux États-Unis. On ne peut plus vous dire en état, depuis 2 ans. Et elle me dit, mais moi, c'est un mi-temps. J'ai gardé mon activité d'infirmière la nuit et je fais ça la journée.
Ah oui.
D'accord. Donc, je dis, ah, c'est courageux. Je
Ouais.
crois qu'elle avait 2 ou 3 enfants. Enfin, plus à l'américaine. Alors, ils bossent beaucoup plus que nous. Ils sont moins. On n'est pas traduit en anglais, non. Ils sont moins brillants que nous. Mais ils bossent beaucoup plus que nous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, mais pour de vrai, ce n'est pas un excès de vantardise français. Je pense qu'on va plus vite. Mais par contre, ils bossent beaucoup plus. Ça, il n'y a aucun débat, non. Ceci étant dit, elle me dit ça. Et puis, on creuse. On reste un petit moment. Ouais, je lui demande combien de chiffre d'affaires en commission pour elle. Elle faisait 250 000 dollars. Une deuxième activité. Ouais, je dis, peut-être pas ça à plein temps. Elle me dit, oui, je l'envisage sérieusement.
Ah ouais,
Voilà.
d'accord.
Donc, ça dépend. Je réponds par cette anecdote. Ça dépend de ce que vous en faites. Je suis certain que, au mieux, une journée, bien qu'on. Une seule journée par semaine à l'immobilier, mais réellement à l'immobilier, ce qu'on fait, on le fait bien. Alors, peut-être que ça ne serait pas sur une journée. Et je crois que la passion l'emportera. Le tout, c'est de pouvoir avoir une pérennité financière. Donc, je préfère quelqu'un qui va faire un mi-temps et qui a une pérennité financière. Une très belle réussite. Je ne vais pas les mettre dans l'embarras, mais gens qui ont une activité professionnelle aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'embarras, c'est décidé, hein, mais voilà, qu'une activité et hésite à la laisser et franchement, arrive vraiment à mener les deux et faire des super chiffres d'affaires chez nous. Et c'est plus la sécurité. Alors, ils baissent les heures de l'autre côté, les activités
D'accord,
qui leur permettent. Ils réduisent, c'est les activités salariées, hein, purement, hein, mais ils réduisent leur. Voilà, ils peuvent. De 35 à 32, de 32 à 28. Mais c'est peut-être ce qui leur apporte ce ballon d'oxygène ou cette sérénité, en tout cas, pour pouvoir le faire en bonus, le bonus rapportant plus que l'essentiel. Et là, j'ai envie d'être humble et de dire qu'il y a de tout. Le tout, c'est de faire la partie immobilière correctement. Donc, je suis assez ouvert sur ce sujet et je pense qu'encore une fois, c'est pas. Donc, on doit apporter un service, on doit regarder les résultats. Mais on ne doit pas juger de ce que les gens font et comment ils le font.
D'accord. Donc en tout cas, c'est pas rédhibitoire et on peut imaginer d'avoir cette activité en plus d'une autre activité sans problème.
Et très. Alors, je vais juste faire cette addition, mais en plus, nous, on a quand même plein de gens qui ont des activités périphériques. Homestaging, donc architectes, on a des maîtres d'œuvre. Donc voilà, donc maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des marchands de biens. Donc, toutes ces activités, bien évidemment, elles ne rentrent pas dans le champ de l'XP, mais elles sont tellement complémentaires, tellement pertinentes, courtier en financement. Donc, on a tout ça aussi dans nos conseillers, et je pense qu'on en aura d'autres, parce qu'encore une fois, je ne crois pas qu'on est obligé d'être dans nos cordes. Il faut juste bien savoir se servir des cordes qu'on a.
Bien, alors pour terminer peut-être, quel conseil, vous l'avez un peu esquissé, donc il s'agira juste peut-être de compléter, mais quelles sont pour vous aujourd'hui les qualités pour être, alors mandataire, on va employer encore le terme mandataire parce
Non,
qu'effectivement,
mais
il
je le prends, je le prends.
oh, oui, tout à fait. C'est quoi les qualités? Et peut-être, puisque vous êtes quelqu'un de franc et d'assez transparent, quels sont les défauts qu'il est préférable de ne pas avoir pour embrasser, cette activité?
Alors, pour l'embrasser, je pense que. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est une qualité le travail, mais la capacité à travailler. Voilà, je pense que c'est un métier qui demande. Travail. Et là, paradoxe, c'est que plus vous êtes bon, qu'est-ce que ça veut dire bon? plus en tout cas votre clientèle se développe et plus vous faites du chiffre d'affaires, et moins vous allez avoir besoin de travailler. Vous pouvez continuer, vous allez augmenter le chiffre. Mais évidemment, vous les top agents, vous en avez croisé des tonnes, et moi aussi, on a cette chance, mais vous retrouvez ce point commun, que c'est 60% exclusivité, plus de prospection. OK. Par contre, un débutant qui arrive et qui me dit « Moi, je veux travailler à 100% exclusivité, plus de prospection », je lui dis « C'est génial. » Pas tout de suite.
Bah ouais.
Tu aurais demandé un phasage. Donc voilà. Donc, j'en reviens à mon, ça va demander moins de travail, mais pour arriver à 100% plus de prospection, ça demande une vraie mise en place de réseau d'ambassadeurs, de clients satisfaits, de... Voilà, ça demande beaucoup de choses qui se mettent en place en certains en 2-3 ans. Ça peut aller relativement vite sur une région, sur une zone de chalandise, mais un personal branding, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le personal branding est essentiel. Donc, il y a toute une construction à faire autour. Je pense que le travail, c'est vraiment la principale. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis passionné par ce métier.
Si, si, ça s'entend. Oui, oui, ne vous inquiétez pas.
Donc, je dirais la passion. Je dirais la passion, je crois que c'est un métier qui est l'ascenseur émotionnel, la difficulté parfois de ce métier, le contact à l'être humain qui n'est pas toujours évident. J'ai toujours dit que j'écrirai un livre dès que j'aurai un petit moment sur quelques anecdotes, j'en ai quelques croustillantes quand même. Mais tout le monde, je pense qu'on le ferait à plusieurs mains entre conseillers immobiliers, on pourrait même se marrer un petit moment, on devrait se faire un week-end dans quelque part enfermé, on se raconter nos anecdotes, je pense qu'il y aurait de la matière. Donc, le contact, voilà, le nombre de fois, et heureusement, je ne les connais pas toutes, on m'est passé, on a oublié de me payer ma commission, elles sont nombreuses. Donc, il y a une certaine résilience, voilà, une certaine abnégation, une certaine résilience aussi pour être dans ce métier. Et je crois que la passion vient bien contrecarrer ça. Donc, si on aime ce métier, ça aidera beaucoup à résister à la fois aux crises, on en a parlé, à la fois aux moments plus compliqués. Je crois que c'est un métier qui demande de l'organisation. Parce que justement, je pense qu'être 5 minutes en retard à un rendez-vous, ce n'est pas possible. Être à l'heure à un rendez-vous, mais pas l'avoir préparé, ce n'est pas possible. Bref, il y a un certain nombre de choses. Contrairement à ce qu'on pense, non, nous n'ouvrons pas des portes. Ce n'est pas nous, passe-partout. Il y a du boulot, en tout cas pour ceux qui réussissent. Il y a du travail, il y a du travail de préparation, d'anticipation, de suivi, de relance, de... Bref. Voir que cette maison, la maison d'Eric, je l'ai vue il y a un an, il m'avait dit peut-être dans un an, je repasse. T'achetais pas par hasard, et puis je repasse pas dans un an, je repasse dans un an, moins trois mois, mais bref. Tout ça, ça s'organise, ça se structure. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire, parce que c'est comme ça, un peu à l'arraché, ce n'est pas des réponses que j'ai. La bonne humeur, il faut avoir un côté commercial, il faut aimer les gens. Quand. Enfin, voilà, si, j'ai oublié celui-là, aimons les gens. Enfin, si vous n'aimez pas les gens, faites pas ce métier. On peut le faire avec finalité l'argent, parce que c'est un métier d'argent. Toujours un peu gêné quand on me dit « moi, l'argent, je m'en fous ». Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ne le faites pas que pour l'argent. Si vous n'aimez pas les gens, ça va être très compliqué. Ça va devenir vraiment très difficile, ce métier. On est en contact des gens en permanence et il faut avoir appuyé, on rentre dans leur intimité. L'immobilier est très intime. Alors, on peut avoir des successions, on peut avoir des divorces. Des couples qui ne sont pas d'accord, on est à la fois psychologue, on fait beaucoup de choses, assistante sociale, enfin, voilà, notre métier est assez diversifié. Et il y a ça aussi, il y a le côté chef d'orchestre, quoi, en orchestre. Il faut avoir la curiosité d'avoir plein de choses, plein de domaines de compétences et de continuer à les nourrir pour pouvoir évoluer. Ce qu'il ne faudrait pas avoir, c'est croire qu'en regardant certaines séries Netflix, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, non, mais avec tout le respect, elles sont très bien faites. Et Dieu sait, on en a plein aux États-Unis où c'est des conseillers UXP dedans, donc j'ai pas de problème avec le concept.
Oui, alors des séries très bien faites, mais très scénarisées en amont également.
Complètement.
Ouais.
Complètement, c'est 100% scénarisé.
Tout à fait. Ils
n'ont jamais fait d'immobilier. Dans... Voilà. Mais il y en a qui font de l'immobilier, j'en connais certains, donc pour de vrai, pour des gros chiffres, pour de vrai. Mais bon, néanmoins, oui, c'est pas ça. Le quotidien d'un conseiller immobilier, finalement, ce n'est pas ça, ni ce qu'on peut voir sur le groupe M6, en tout cas le groupe M6, la partie au grand public, ce n'est pas ça.
Mmh.
Voilà, c'est pas je prends une offre, je la présente, elle a accepté, on boit le champagne, on tente, on fait une bise, non, c'est plus compliqué que ça. Donc le faire en ayant pris vraiment, en s'étant renseigné, et je vais simplement dire que c'est faire, vous ai dit en pour, qu'il ne faut pas avoir en compte, quoi. Si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Si c'est uniquement gagner une fortune et tout de suite, ne faites pas ça. ou bien un trader de crypto-monnaie, je ne suis pas sûr que vous fassiez fortune non plus, mais
non
voilà.
Plus.
Mais,
Non, non.
mais vous allez le croire pendant un moment, lui va vous dire que oui.
Oui.
À moi, donc non, c'est un métier où il faut 6 à 8 mois pour se mettre en route, il faut avoir cette trésorerie, un accompagnement qui nous permette de, j'ai pas peur de le dire, 6 à 8 mois, c'est pas 3 mois, c'est 6 à 8 mois. Tant mieux, il y en a qui le font 3 mois, y compris chez nous, mais encore une fois, quand je donne un chiffre moyen, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui font 12. Il faut aussi l'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne réussissent pas. Il y a des 12 mois qui finissent avec des super chiffres. Consistance, c'est une traduction d'américain, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ils ont constitué.
Ouais. Non, mais je vais vous dire un truc. C'est pas pour vous faire des éloges, parce que si c'était pas le cas, je le dirais pas. Moi, je trouve ça extrêmement sérieux et sécurisant que vous rappeliez bien cette exigence, pardon, de trésorerie et que c'est pas une exigence de trésorerie de quelques semaines, quoi. Voilà, qu'il faut quand même. Et dire le contraire, je trouve que c'est vraiment vendre de la poudre aux yeux pour ceux qui le font, en tout cas.
J'aime les gens, mais sincèrement, donc je n'ai pas envie d'emmener des gens. Quel intérêt? Encore une fois, je ne gagne pas d'argent avec les 50 euros par mois, j'en perds. Donc, quel intérêt pour pouvoir nous annoncer 600 conseillers au lieu de 404? Quel intérêt? Je vais mettre des gens dans des situations personnelles difficiles.
Tout à fait.
Donc, quel intérêt? Voilà, le but, il est que les gens soient en connaissance de cause, et ça, c'est rappelé à mes équipes d'intégration, c'est clairement dit aux conseillers. C'est clairement expliqué. Je ne sais pas si ça a toujours été le fait. On a toujours des contre-exemples. Mais en tout cas, aujourd'hui, les process sont très clairs chez nous. Ben, c'est clair aussi que dès qu'on vous pose la question. Et c'est la réalité. Voilà. Si quelqu'un vous dit l'inverse, partez en courant déjà. Premier point, quoi. Voilà. C'est pas comme ça que se passe l'immobilier. On ne vous apporte pas de leads. Il y en a qui m'appellent. Ils me disent combien de leads vous apportez. Fuyez ceux qui vous apportent des leads. Fuyez-les. Sérieusement. Je le dis haut et fort. Dès qu'on vous. Non, c'est un métier d'indépendant, c'est un métier où vous devez vous construire, où on vous apporte des outils, où on vous apporte de la méthode, on vous apporte de la stratégie, on vous apporte du support, de la formation, ça apporte plein de choses. Nous, les publications, vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais ne croyez pas au miroir aux alouettes. Et si c'est trop beau, c'est, à part l'XP qui est vraiment trop beau, je vais confirmer aujourd'hui, mais à part celui-ci qui a fait ses preuves, parce que justement, côté au Nasdaq, 4,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, voilà, il n'y a pas de mystère 80. Et souvent, on est passé en 2016, on est 400 dans le monde, on est 90 000 aujourd'hui. Il n'y a pas autant de personnes qui ont pu se tromper en si peu de temps. En 7 ans, avoir 90 000 conseillers qui rejoignent un seul réseau et en font le premier réseau mondial, il y a quand même quelque chose qui est un peu supérieur à nous, d'humilité. Donc voilà. Et être humble aussi, je pense que c'est l'indispensable qualité du conseiller en immobilier.
Bien.
Savoir qu'il ne sait pas.
Eh bien, écoutez, Samuel, je vous remercie pour cet échange et surtout votre franchise et puis les conseils que vous avez pu donner. Dans cette dernière partie, notamment, je trouve qu'on a un vrai vade-mecum de ce que doit être, de ce que un agent commercial, en fait, aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a d'excellents conseils dans ce que vous venez de dire, vraiment. Merci, Samuel, et à bientôt.
Merci à vous de m'avoir invité, avec grand plaisir.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Notre entretien avec Samuel Co est terminé. Alors j'espère que vous avez apprécié son franc-parler. Voilà, c'est comme à chaque fois, j'aime bien inviter des personnes bon, qui ne sont pas dans la langue de bois. Il ne l'a pas été. Hein. Il a répondu à mes questions de manière extrêmement claire et sincère. Donc conclusion, bah, parce que c'était un peu le fil directeur quand même de cet épisode. Est-ce que 2024 est une année où on peut démarrer une activité immobilière en tant qu'agent commercial ou en tant que mandataire dans un grand réseau, bah la réponse elle est oui, voilà. Alors évidemment, il faut y poser des conditions, il faut savoir si on est fait pour ça, etc. Enfin, je pense que Samuel Co est largement revenu sur l'ensemble de ces interrogations. Alors, nous concluons cet épisode. Comme d'habitude, je suis joignable sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions à me poser, c'est le cas parfois. Hein, vous m'interrogez sur un certain nombre de choses. Il est donc tout à fait possible de me joindre. Le plus facile, ça reste quand même LinkedIn, qui est le réseau quand même sur lequel je suis le plus actif. Et puis, ben, si vous avez quelques secondes, je vous invite à aller noter l'épisode, en tout cas le podcast, sur aussi bien sur Spotify que sur Apple Podcast. Ça l'aide inévitablement à être un peu plus populaire et à monter en puissance tranquillement, même si ben, au fil des mois, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et j'avoue que ça fait énormément plaisir. Voilà, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Passion Immo, c'est terminé, pour cette fois en tout cas.